captain, good morning, shine. Do you need another mule skinner out on your new mud line? Doodly. Job, set that water bucket down. Working on the good roads, darling, half a day. Good gals waiting on Saturday night just to draw my pay.
L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors pour cette quatrième émission en Gascogne, on l'a vu la semaine dernière, on a parlé de cette maison de la nature et de l'environnement au bord de ce lac, lac de Puy-d'Arieux. On est vraiment à la limite ici des Hautes-Pyrénées, du Gers, la Haute-Garonne n'est pas très loin non plus. On est vraiment dans un secteur très rural. Et il y a un pôle que je voulais absolument voir et pousser un peu plus dans cette maison de la nature et de l'environnement, parce que je trouve que c'est une initiative intéressante, que c'est vraiment plus que c'est de l'écologie en action, c'est des choses simples, ça se veut humble, il n'y a pas de grand discours, on n'en entend pas trop parler. Et c'est ça qu'on aime à l'ours et la carotte, c'est ces choses, ces initiatives dont on n'entend pas forcément parler, mais qu'il faut avancer les choses. C'est le pôle arbres et paysages de cette maison de la nature et de l'environnement, ici à Puy-d'Arieux. Et pour en parler, j'ai envie de vous présenter Anaïs Coutier. Bonjour.
Bonjour.
Alors toi, Anaïs, tu es la référence technique de ce pôle arbres et paysages. En quoi consiste ce pôle arbres et paysages?
Ce pôle arbres et paysages a pour mission de sensibiliser à l'arborforêt.
L'arborforêt, déjà, ça, j'ai jamais entendu parler.
Voilà, et ben, c'est différents types d'arbres qu'on ne va pas trouver dans le milieu forestier. Donc c'est par exemple les arbres en ville, les arbres dans les champs, les arbres intraparcellaires, les haies champêtres en font partie. Voilà, c'est tous ces arbres-là, les arbres remarquables urbains, oui, tous ces arbres-là en général.
Alors votre rôle, vous, c'est quoi c'est de faire quoi avec ces arbres?
Alors nous, on a plusieurs rôles, c'est de sensibiliser à l'importance de ces arbres parce qu'ils ont beaucoup de rôles qu'on a tendance à oublier, mais qu'avant ils étaient beaucoup mis en avant. Donc c'est vraiment de sensibiliser à ça à travers plein d'actions. Donc on va accompagner à la replantation de haies champêtres sur tout le territoire des Hautes-Pyrénées, mais aussi à la gestion durable, aux essences locales. Vraiment, on essaye de remettre en avant ces arbres pour marquer nos territoires et vraiment bénéficier de cette richesse qui est naturellement présente sur le territoire.
Alors c'est quoi cette richesse? Pourquoi est-il important de sauver, replanter des arbres? Alors c'est au bord des champs, c'est un peu partout?
Alors nous, oui, on va accompagner vraiment tout projet de plantation. Donc, si tant que c'est des essences locales, parce que du coup, c'est celles qui vont être adaptées à notre faune et à notre climat, mais aussi au réchauffement climatique qui se passe actuellement. Et les replanter, c'est très important. Vraiment, maintenant, on peut choisir la zone où on va les mettre. Donc, il peut avoir des impacts face, par exemple, aux coulées de boue qu'on peut avoir le long des fossés. Donc,
alors, les coulées de boue, c'est l'érosion que procurent les champs avec le labour. Quand il y a des grandes pluies, des épisodes un peu brusques, comme il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique, on voit la terre qui part dans la rivière.
Exactement, c'est ça. C'est soit à cause du labour, soit à cause de la terre nue. Mais voilà, replanter une haie, par exemple, sur talus, juste en bordure, permettra de pas perdre ce potentiel qui est le sol, qui est un potentiel qui est très très lent à se former, et du coup le retenir sur la culture et donc favoriser le type de sol et la culture par la suite avec simplement une plantation de haies champêtres.
Alors ça c'est bien, on part de la terre, on part du sol, ça c'est un premier rôle des arbres, mais il y en a d'autres je pense, il y a celui de la biodiversité j'imagine.
Exactement, donc les arbres, surtout du coup les très vieux arbres sur les arbres remarquables sont des gros accueils de biodiversité. Dans une haie en plus on a les différentes strates qui font qu'on va avoir différents insectes, différents oiseaux, donc les différents étages de la haie, mais c'est vraiment voilà, accueil biodiversité, faune mais aussi flore. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque nos paysages, où on sait qu'ici on est dans les Hautes-Pyrénées parce qu'on a telle et telle essence, alors que côté Méditerranée on n'aura pas les mêmes, et ainsi de suite. Il y a aussi des rôles justement sur la qualité de l'eau, donc éviter que les coulées de boue arrivent dans l'eau, mais aussi les épurer, faire qu'elles soient à l'ombre et du coup qu'elles deviennent en fait plus une eau.
Il y a moins d'évaporation.
Il y a moins d'évaporation, mais aussi ça favorise l'eau potable, parce que plus une eau est chaude, moins il y a de l'oxygène. Donc du coup ça joue aussi pour les animaux mais également pour nous, parce que l'eau potable c'est quand même essentiel pour les humains.
Alors vous avez remarqué, alors en général vous plantez au bord des champs, parce que le problème c'est quoi ? C'est ici comme ailleurs, alors on est quand même dans un secteur assez favorisé hein, par rapport aux grandes plaines céréalières, mais ici aussi il y a eu du remembrement, il y a eu de l'arrachage de haies, il y a eu ces choses-là, il y a eu ce phénomène ?
Oui, ici aussi, donc on a quand même, alors pas partout, donc on a encore des toutes petites parcelles très boisées, mais on a aussi des assez grandes parcelles avec plus un linéaire de haies où c'est intéressant justement d'en remettre. Donc on va travailler avec les agriculteurs pour replanter avec eux et choisir l'endroit où la haie ne va pas leur gêner par la suite, va leur demander le moins de gestion possible et que ils puissent le valoriser aussi dans leur exploitation. Parce qu'effectivement, on va replanter en bordure, mais on peut aussi replanter intra-parcellaire, donc dans la parcelle, pour refaire de l'ombrage pour les élèves, enfin, quand c'est un élevage. Là, on l'a fait avec des ports noirs de Bigorre, où on a replanté intra-champ. Donc voilà. Et par contre, pour les particuliers, ça se fait beaucoup pour bloquer la vue et aussi être brise-vent.
D'accord. Et pour les agriculteurs, ici, le vent, c'est pas vraiment un souci ?
Alors ça le fait un tout petit peu, mais ce n'est pas l'impact le majoritaire, c'est plutôt, il y en a beaucoup qui replantent parce qu'ils veulent replanter, refaire leur territoire, refaire beau, faire beaucoup d'ombrage parce qu'on va travailler beaucoup plus avec les éleveurs. Mais par contre, si on a quand même cette petite notion de brise-vent autour des cultures, parce qu'une haie peut quand même protéger jusqu'à 20 fois sa hauteur, donc c'est quand même important d'en replanter quand on veut limiter le vent qui peut être fort quand même.
Et sinon sur les cultures, on a vu il y a des bénéfices de ces arbres sur les cultures. On a tendance à croire que les arbres avec leurs racines vont aller empiéter sur le champ et donc vont aller prendre des nutriments de la terre, mais je crois que c'est pas tout à fait la bonne vision des choses.
Exactement. Donc on a tendance à penser que l'arbre va être le voleur d'eau, va piquer les nutriments, alors que non, l'arbre va plutôt servir d'ascenseur. Donc en fait, ses racines vont plonger en profondeur, vont chercher l'eau et les nutriments qui sont au fond et vont les remonter pour les rendre disponibles aux cultures. Après, comme c'est, par exemple, une haie va protéger jusqu'à 20 fois sa hauteur, du coup, ça protège du vent. Donc la culture aura plus d'évapotranspiration en surface, donc du coup plus d'humidité pour elle. Donc en cas de sécheresse, c'est quand même intéressant d'avoir de l'humidité en surface. Et l'arbre, pareil, il va produire ce qu'on appelle de la litière, donc ses feuilles vont tomber, ses racines vont se dégrader, et du coup ça va enrichir le sol et du coup améliorer sa qualité, qui est quand même un plus pour nos cultures à côté. Et on l'a dit, c'est un support de biodiversité, donc niveau auxiliaire de culture, c'est très important d'en avoir. parce que du coup ça apporte ces auxiliaires de culture.
Alors les auxiliaires culture, ça va être ces petites bêtes ou champignons qui vont aller faire concurrence aux ravageurs, c'est-à-dire on va empêcher, on va créer un milieu qui va être équilibré, on va pas avoir un ravageur qui va pas prendre toute la place, mais il va avoir quelques ennemis qui vont lui faire concurrence à la place des pesticides.
Exactement, c'est ça. Donc on peut avoir des insectes mais aussi des rapaces qui le font.
D'accord. Ah oui, les rapaces qui vont être utiles contre les rongeurs, ce genre de choses, les campagnols et ce genre de choses. Ce sont plutôt des agriculteurs bio, pas bio. Il y a beaucoup de bio dans le coin où c'est pas lié à ça. C'est vraiment, on peut dire que c'est quelque chose on va avoir des agriculteurs lambda qui vont être sensibles à votre message.
Exactement. En fait, on n'a pas le réflexe vraiment de leur demander. Donc je pourrais pas vraiment le faire remonter. Je sais qu'il y a des maraîchers qui plantent avec nous, qui sont des maraîchers en sol vivant, qui sont bio, donc eux on le sait parce qu'on travaille avec eux, mais c'est vrai que la plupart sont des éleveurs lambda ou des céréaliers lambda. On leur demande pas parce que pour nous c'est pas forcément un critère, c'est plutôt accompagner vraiment toute personne et voilà, les céréaliers plantent aussi bien que des éleveurs, un peu moins mais quand même ils plantent, donc oui, il n'y a pas forcément de bio ou de pas bio.
Et vous arrivez à les convaincre plus par le côté paysager ou par le côté biodiversité ? Est-ce que le côté paysager va finalement toucher plus ou pas ?
Ça dépend. Ouais. Là, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées plutôt face à l'érosion, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus.
Érosion des sols.
Oui, face à l'érosion des sols, parce que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus sur le territoire et qu'on essaye aussi de... Là, on a plusieurs programmes qui essayent aussi de sensibiliser à ça. Donc, on appuie dessus, donc on a pas mal de demandes. Mais sinon, non, il n'y a pas forcément de critères. Il y en a beaucoup qui se disent, oui, ça va me ramener les oiseaux. Ce n'est pas forcément très marqué.
Alors, depuis quand vous faites ça ? Quels sont les retours ? Les retours sont bons ? Ça fait longtemps que vous êtes lancé dans cette dynamique ?
Alors, au sein de la Maison de la Nature, c'est depuis 2008-2009 qu'on a ce pôle arbre et paysage 65. On a réussi à accompagner plus de 95 000 plants, donc 95 000 mètres de haies, de plantés sur le territoire des Hautes-Pyrénées, plus quelques projets d'agroforesterie. Donc agroforesterie, c'est vraiment les alignements d'arbres intraparcellaires. Donc ça, on en fait un ou deux par an en fonction des demandes. Mais du coup, c'est quelque chose qui marche, qui est croissant.
Alors agroforesterie, on rappelle rapidement quand même.
C'est agroforesterie, c'est les systèmes, donc c'est ce qu'on appelle le système agroforestier. Donc c'est relier la culture avec l'arbre au sein d'une même parcelle. Donc ça peut être des alignements d'arbres intraparcellaires, donc dans le champ, ou des haies ou des choses comme ça.
Donc on va planter quel type d'arbre et quel type de culture on va faire à côté dans ces, donc c'est un mélange, c'est une espèce de forêt-champ, quoi.
Oui, c'est ça. Alors du coup, il y a des densités où on sait qu'il ne faut pas mettre trop d'arbres. Voilà. Niveau culture, ça dépend. Ça peut être très bien de l'élevage comme des céréales. Ça dépend de l'objectif derrière. En fonction de si c'est de l'élevage ou des céréales, on ne va pas forcément mettre les mêmes arbres. Par exemple, parcours volaille, on appelle ça un système agroforestier si on met des arbres dedans. Et on va mettre des noyers, des pommiers, des poiriers pour que les poules aient de l'ombre pour se protéger, mais aussi et des fruits pour jouer par la suite, parce que c'est des animaux très joueurs.
Et alors tu m'as dit, vous travaillez avec des essences locales, et tu m'as dit aussi on va planter des arbres qui vont résister au changement climatique. Les deux me semblent un petit peu antinomiques, mais tu vas m'expliquer si c'est antinomique ou pas, et est-ce qu'il y a vraiment des arbres d'essence locale qui vont s'adapter au changement climatique alors que le paysage va changer, enfin les conditions en tout cas du paysage, comment ça se passe ?
Alors en fait il y a les deux points de vue, donc il y a le point de vue où il faut justement s'adapter et ramener beaucoup d'espèces non locales, mais par contre il y a beaucoup de risques en faisant ça, parce qu'on lève les barrières géographiques et du coup on peut ramener de la renouée du Japon, de l'érable de Kundo, voilà, des espèces qu'on n'aime pas forcément. Et par contre il y a l'autre point de vue qui est avoir des espèces locales et champêtres, donc c'est des espèces qui s'adaptent parce que c'est une force du végétal, l'acclimatation, donc il s'adapte génétiquement à ce qui se passe. Et pour ça, nous, on va répondre à une marque qui s'appelle la marque végétale locale, qui découpe la carte de la France en 11 régions d'origine. Et du coup, nous, on est dans le sud-ouest et dans les Pyrénées. Donc, on va récolter des graines dans le milieu naturel, qu'on envoie à des pépiniéristes partenaires, qui vont nous refournir des plants par la suite.
Très bien. On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien. Et puis, on se retrouve après. Thank you. Alors nous voilà de retour avec Anaïs Coutier dans cette maison de la nature et de l'environnement qui est à la limite donc des Hautes-Pyrénées, du Gers, de la Haute-Garonne pour cette nouvelle émission en Gascogne. Donc sur ce pôle arbres et paysages qui replante des haies pour amener de la biodiversité, pour éviter l'érosion des sols, pour aider les agriculteurs à amener de l'ombre dans les élevages. Enfin voilà, tout un tas de choses très positives pour l'environnement et pour les hommes. C'est ça qui est pas mal avec cette initiative, c'est que c'est de la biodiversité au service de l'humain et ça évite de braquer les gens contre l'écologie qu'ils voient comme quelque chose de punitif. Là, c'est quelque chose que vous amenez en positif. Et c'est super. Alors, comment vous accompagnez ? Alors, on l'a vu, hein, vous travaillez à la fois avec les agriculteurs, qui, je pense, et sont ceux qui vous font planter le plus d'arbres. Vous payez les arbres ? Vous leur offrez ?
Non, on va travailler sur grâce à plusieurs programmes de plantation. Donc on a le programme Plan Arbre et Carbone Vivant de la région Occitanie et en complément le programme de notre agence de l'eau à Dour-Garonne qui sont en fait deux financeurs qui permettent de réduire le reste à charge pour les planteurs. Donc dans il reste quand même un reste à charge parce que ben, ça ne finance pas à 100%, mais ça réduit le coût fortement. Et par-dessus, on a plusieurs autres financeurs qui se rajoutent, comme par exemple la Fédération départementale des chasseurs ou encore le Fonds pour l'arbre qui sont des financeurs privés nationaux ou une fondation qui est présente ici localement à Lourdes.
Alors j'imagine que vous, vous les aidez à se dépatouiller de tout ça pour aller chercher les financements, mais l'accompagnement s'arrête là. En quoi consiste votre accompagnement, donc des particuliers, des professionnels, de tous les gens qui veulent planter des arbres autour de leur parcelle?
Alors,
ou dedans?
Oui, alors on a un accompagnement très poussé, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller voir où est-ce que la personne souhaite planter et on va jusqu'à l'achat du plan, du paillage et des protections. Par contre, tout ce qui est préparation du sol et plantation reste à la charge du planteur. Mais voilà, on l'accompagne avec vraiment comment planter, quel plan. On lui achète même le plan, donc c'est vraiment accompagné de A à Z.
C'est-à-dire vous allez lui donner des conseils de plantation. Est-ce que vous allez planter des arbres fruitiers comme des pruniers, des choses comme ça en bord de... Tu l'as dit sur les poules tout à l'heure. Ça a un intérêt au-delà parce qu'il y a les fleurs, je suppose, pour les abeilles, ce genre de truc avec les fruitiers.
Exactement. Les fruitiers, c'est des espèces très mellifères et polliniques, donc c'est intéressant. Par contre, nous, on va planter que des espèces sauvages, donc elles ne sont pas greffées. Donc par exemple, les pommes, ce sera les toutes petites rondes. Les poires, c'est pareil. Du coup, elles ne seront pas en forme de poire, elles seront petites et rondes. Mais c'est vraiment des espèces qu'on va planter. Et au sein de la Maison de la Nature, on forme aussi les gens au greffage. Et du coup, ça peut être de super porte-greffes. Et par la suite, la personne, si elle souhaite avoir un arbre qui est aussi comestible pour elle et qui est bon, peut le greffer par la suite. Voilà, ça, il n'y a pas de souci.
Ok, super. Et cet accompagnement, il y a aussi un démarchage, il y a une sensibilisation, j'imagine.
Oui, effectivement, on va travailler niveau sensibilisation avec tout public. On peut très bien commencer avec de la maternelle jusqu'aux adultes. Donc on va faire des animations scolaires, des animations dans les lycées agricoles, on fait des stands. On sensibilise au maximum sur l'impact d'une haie et les rôles. Mais par contre, c'est pas vraiment du démarchage parce que c'est pas pour que les gens passent forcément par nous, mais c'est pour qu'ils replantent sur le territoire et qu'on ait des plantations qui marchent et qui sont réussies.
Alors c'est plutôt, tu l'as dit, vous faites de la sensibilisation dans les lycées agricoles. Les agriculteurs qui vont replanter, c'est plutôt des jeunes qui s'installent ou c'est plutôt des vieux ou des un peu moins vieux en fin de carrière qui ont un peu tout réalisé, qui veulent apporter une touche supplémentaire ou qui se rendent compte un petit peu de l'impact négatif qu'ils ont eu et qui essaient de se rattraper en fin de vie?
On a les jeunes qui s'installent. Ouais. Et les personnes, oui, justement, qui sont en train d'arrêter leur exploitation, qui se disent « bon, maintenant, je vais replanter. Je me suis rendu compte qu'ici, en fait, ça ne m'aurait pas gêné d'avoir une haie, donc je la mets. » Donc, on a vraiment les deux côtés.
Et les jeunes, ils sont sensibles?
Les jeunes qui s'installent, surtout les éleveurs, vont penser justement au bien-être de leurs animaux et du coup, remettre de l'ombre.
Oui, en plus, bien-être, ça veut dire aussi productivité, hein, quelque part. Hein.
Oui.
Une poule qui n'a pas trop chaud et qui peut s'amuser, elle va avoir une meilleure chair ou plus d'œufs.
Oui, oui, oui.
Oui, surtout qu'en plus, ici, vous êtes sur un territoire particulier, puisque vous avez cette appellation du Port Noir de Bigorre, qui est une espèce de... Je pense qu'en France, il n'y a pas un label pour les porcs qui soit aussi respectueux de l'animal, de ses rythmes naturels, du fait qu'il doit être dehors, que les semences, que les céréales doivent venir de la ferme. Enfin, c'est vraiment un cahier des charges. Quand vous achetez, il vaut assez cher, ce porc-là, mais on est vraiment sûr que vraiment l'animal en est à l'inverse, opposé du port de batterie. Donc là, vraiment, il y a un intérêt. Là, ça va être, c'est quoi que vous plantez pour les porcs? C'est du chêne.
Exactement. C'est du coup nos plus gros planteurs, parce que dans leur cahier des charges, il est demandé d'avoir au moins deux haies, une côte. Alors soit un bois, s'il y a le bois sur la parcelle, c'est bon. Sinon, c'est une haie côté ouest et au sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est demandé parce que c'est un cochon marcheur forestier. Donc on va leur préconiser oui du chêne, du châtaignier, du néflier et du noisetier. Donc c'est quand même des essences que le cochon adore manger et ça lui...
Il mange pas l'arbre, il mange les fruits.
Oui, il mange les fruits, mais il casse un peu les clôtures pour aller manger les fruits au pied. Des fois il le fait, mais au moins ça lui permet de circuler au sein de sa de son champ et du coup ben, de marcher, et c'est naturellement ce qu'il doit faire. Donc niveau bien-être, c'est vraiment une espèce qui est top.
Super. Alors, il s'agit de planter, c'est bien d'aider les gens à planter, mais après, est-ce que vous intervenez dans la gestion de ces... Comment ça se passe?
Alors du coup, dans notre accompagnement de plantation, on va suivre les plantations sur au moins 3 ans. Donc les premières années sont un peu les plus essentielles au niveau de la gestion. Donc,
surtout de l'arrosage.
Alors pas ici. Ah. Ici, on est quand même dans un endroit où il pleut quand même encore beaucoup. On va juste préconiser un bon coup d'arrosage en cas de sécheresse. Mais surtout pas régulièrement, sinon ils ne vont pas faire leurs racines. Mais par contre, c'est surtout taille de formation si on veut un bois d'œuvre ou bois de chauffage et du recépage si on veut des jolis petits
arbres. Du recépage.
Alors c'est quand on va couper à ras du sol. Donc ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit oui, mon arbre il a poussé et je le coupe à ras du sol. Mais ça va faire un vrai port arbustif bien touffu et beaucoup plus dense pour la haie.
C'est-à-dire qu'au lieu d'un tronc, il va y avoir 3-4 troncs qui vont partir et l'arbre va pousser en CP.
C'est ça, exactement. Et du coup, ça, c'est sur les premières années qu'on va accompagner là-dessus. Et après, on essaye depuis quelques années de développer ce qu'on appelle la gestion durable des haies. Donc, c'est d'accompagner les gens via des plans de gestion. Donc, en fait, ça peut être très bien une collectivité, un agriculteur ou un particulier, peu importe, qui veut gérer ses haies. Donc, il peut nous faire intervenir pour qu'on vienne voir au pied de haie avec lui comment celle-là, elle doit être gérée, comment l'entretenir, est-ce qu'il faut vraiment la tailler ou est-ce qu'il faut faire des tailles de régénération, donc quand les arbres deviennent matures, est-ce qu'il faut les prélever pour refaire de la lumière et laisser de la place pour le reste.
Et alors c'est quoi en général, c'est très divers dans les solutions, c'est-à-dire il y a des moments, c'est pas grave de couper un arbre dans une haie, c'est pas un crime.
Exactement, c'est pas du tout un crime, il faut juste pas forcément couper toute la haie, mais prélever à certains endroits comme on ferait en milieu forestier. Et là, on est vraiment là pour accompagner cette notion-là via aussi la sensibilisation d'outils, on va dire, vertueux de la haie, qui seraient différents des outils qu'on utilise actuellement, parce qu'actuellement, on a